Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Primitive sur le projet 5151. Il est midi, c'est l'heure de recevoir nos invités. Aujourd'hui, nous recevons des personnes que j'apprécie tout particulièrement. Nous recevons des membres de La Forge. Nous avons avec nous Manon. Bonjour Manon.
Bonjour tout le monde.
Et nous avons également avec nous Rémi.
Mon micro n'est pas allumé.
Ton micro est complètement allumé, Rémi.
Merci de me recevoir.
C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Donc là, nous recevons La Forge. On aura l'occasion de parler un petit peu plus en détail de l'actualité de l'assaut, de son histoire, de ses projets, bref, de plein de choses. Mais là, on va premièrement s'intéresser à Manon. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, Manon ?
Je voulais déjà dire merci à tout le monde de m'avoir invitée. Pardon. Et je peux me présenter, oui, donc... problème là, c'est bon. Donc, je m'appelle Manon, je suis en 5e année aux Beaux-Arts de Reims, dans la section design graphique et numérique. Et je suis ici aujourd'hui principalement pour vous parler de mon projet de recherche de diplôme, en tout cas à son état d'avancée actuelle.
Oui, effectivement, tu dois le rendre à quelle date ?
Ça se déroule au mois de juin.
Au mois de juin, d'accord.
Ouais,
donc là, c'est encore en cours de...
De préparation.
En cours de préparation, oui.
Et ça va petit arriver, je pense.
D'accord. Et du coup, en quoi consiste ce projet de diplôme ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors du coup, au Beaux-Arts de Reims, nous avons deux moments forts dans l'année. Un moment qui est dédié à l'écriture du mémoire. Puis ensuite, dans ce comptant, on a une réflexion qui est tournée autour de celui-ci. Et donc, à partir de ce mémoire, je dois réaliser une proposition plastique.
Okay.
Donc, c'est-à-dire, ça peut être des affiches, des livres, des plateformes multimédia. Enfin, vraiment, c'est assez libre, mais ça doit être lié à ce mémoire. Et donc, au mois de juin, se profile un oral avec un jury de 5 personnes avec lesquelles tu discutes de ton projet que tu as mené tout au long de l'année.
D'accord. Et ce jury de 5 personnes, c'est composé de quoi ? De professionnels, de profs, d'autres artistes, de...
Oui, c'est ça. Donc on a eu les noms récemment, donc je les ai plus en tête. Mais c'est 3 professionnels qui sont dans le milieu du design graphique. Et puis il y a aussi le théoricien qui nous a fait passer notre oral de mémoire, qui D'accord. sera là pour qu'il y ait une sorte de lien qui se profile. Et il y a aussi un de nos professeurs qui est là pour nous soutenir aussi lors de cette fin ouais. d'année.
Bah oui, j'imagine. Surtout que c'est une année scolaire un peu particulière. Donc, c'est bien qu'un prof soit là pour soutenir les élèves. Je pense que ça ne doit pas être très simple en ce moment pour les SAD.
Non, c'est pas, moi, de mon point de vue, ce n'est pas hyper évident. Après, c'est censé être une année où on est autonome sur un projet, donc ça nous laisse libre champ à ce qu'on a envie de faire. Et du coup, ils sont là pour nous soutenir à peu près une fois par semaine. On a des sortes de rencontres avec eux où on parle de notre projet et comment ça avance, quoi.
Bon, c'est chouette, il y a au moins un suivi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton mémoire, nous aller un petit peu plus dans le détail ?
Bah, oui, bien sûr. Parce que mon projet plastique de recherche en découle naturellement, comme je l'ai dit aux auditeurs juste avant. J'ai travaillé sur les archives du FBI et plus précisément sur celle de la catégorie OVNI.
Dommage qu'on n'ait pas le générique de X-Files. Hein. Merci Rémi.
Merci.
La Forge toujours au top sur l'animation musicale.
De Raskely.
Pardon Manon.
Non, pas de soucis, ça me fait rire. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé sur le site des archives du FBI, mais je vous y encourage parce que c'est vraiment très intéressant.
Personnellement, j'ai jamais pensé à aller voir.
Eh bien, écoute, si tu as un petit moment, vas-y. Et du coup, j'ai choisi ces documents d'archives parce qu'ils sont pour moi des sortes d'objets hybrides qui nous donnent à la fois à lire puis à voir. Parce que c'est des documents qui regorgent de différentes typologies de formes, tant au niveau textuel qu'au niveau graphique. Et ces archives en question véhiculent une forme de nouveau langage qui va au-delà d'une simple lecture. Et donc, c'est en tant qu'étudiante en design graphique, pardon, que je me place face à ces documents. Et je suis pas du tout la seule à m'y intéresser parce que faut savoir que la section OVNI, c'est la section la plus visitée de toutes les catégories confondues et répertoriées donc sur le site des archives du FBI.
C'est fou.
Ouais.
C'est dingue, vraiment, les gens sont fascinés par les OVNI.
Ouais.
Quoi. Je pense qu'il y a tant une fascination et pour les OVNI et pour le FBI.
Oui, carrément. Et ce sujet, il alimente et passionne toujours autant les amateurs que les spécialistes de phénomènes étranges. Mmh. Et bien entendu, aujourd'hui, je me place pas en tant qu'ufologue, pas du tout, ni spécialiste, car ce n'est pas du tout le cas.
Ouais.
Et en tant que jeune graphiste qui a le souhait de déchiffrer avec mes lecteurs de mon mémoire ces archives avec eux.
Oui, bien sûr.
Parce que le graphisme est selon moi un outil efficace qui permet de mieux appréhender ces documents en question. Même si ce n'est pas des créations qui sont à l'origine plastiques et qui sont habituelles aux beaux-arts, même si on touche à tout, le designer graphique conçoit des solutions de communication visuelle qui permettent de rendre plus accessibles justement ces contenus en tant que visuel et en tant que texte.
Merci pour cette explication.
De rien, j'ai travaillé dessus.
Ah oui. On voit que tu es très au fait de ce que tu veux produire et de la manière dont tu veux le produire et comment tu l'expliques. Et du coup, comment tu as relié le projet de mémoire avec tes recherches plastiques ? Là, on est en avril, donc du coup, comme disait tout à l'heure, tu es toujours en plein développement. C'est pour le mois de juin, il te reste en gros 2 mois, c'est ça ?
Bah, 3 mois.
3 mois.
Merci.
Ah, mais
c'est
oui.
Ça, avril, oui. Non, ça va venir assez vite. Je suis carrément en plein dedans. Il faut savoir que dans ma pratique, en tout cas, mes médiums de prédilection sont principalement le design éditorial et la typographie. Et du coup, je m'interroge pas mal en ce moment sur les symboles ainsi que leur signification, leur transmission ainsi que leur existence dans le temps.
Superbe.
Et du coup, je souhaitais, pour mon diplôme, concilier à la fois les ovnis ainsi que le langage. C'est tout naturellement ce vers quoi je me suis dirigée, même si c'est un projet en cours. Un projet qui est basé sur la transmission d'un message adressé à des personnes qui nous sont étrangères. Nous pourrions imaginer que par exemple, des aliens aient débarqué sur Terre, mais comment parler à ces aliens ?
Mais ouais, très bonne question, effectivement.
Comment arriver à se faire comprendre ? Comment saisir ce qu'ils cherchent à nous dire sans créer de conflit ?
Mmh, tout à fait.
Et puis, surtout, à quoi peut bien ressembler une langue alien ? C'est ça qui est compliqué, parce que je pense que c'est assez difficile à imaginer, parce que tout ça, c'est qu'une supposition pour nous.
Mmh, c'est complètement ça.
Et pour commencer, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on répertorie aux alentours de 7000 langues parlées. Et sur ces 7000 langues, il y a une bonne partie qui est en danger d'extinction.
7000 langues ?
7000, oui.
Mais sur la planète Terre, on a 7000 langues.
C'est ça, à peu près, parce que c'est celle qu'on a réussi à recenser.
Waouh. Ouais. Impressionnant.
Ouais.
Et donc, tu dis qu'ils sont en danger d'extinction.
Oui. Parce que le nombre de parleurs de ces langues sont de plus en plus minimes pour
comme
certaines.
Comme des tribus, par exemple, qui s'étendent pas et ils sont voués à disparaître.
Oui, voilà.
Donc leur langue, leur culture, oui.
Voilà. Et pour information, donc, toutes les 2 ou 3 semaines, une langue disparaît. Et puis, au même moment, le nombre de langues imaginées et inventées par l'homme augmente.
Mais c'est complètement fou.
C'est assez paradoxal.
Ah ouais, vraiment, vraiment.
Et lorsque je parle de langues imaginées, je fais référence à celles que l'on crée spécifiquement pour une pièce de fiction, que ce soit dans la littérature ou le cinéma. Pour en citer quelques exemples, le Na'vi dans Avatar, le fourche-langue dans Harry Potter,
oui.
Ou encore le Klingon dans Star Trek. Mm-hmm.
Je pense que vous avez bien cerné
de quoi je parle.
Complètement.
Et donc aujourd'hui, nous pouvons répertorier plus ou moins 1100 langues imaginaires qui sont créées pour une fiction spécifique. Et par exemple, nous connaissons pour la majorité de nos auditeurs, je pense, le Dothraki.
Ah oui, Game of Thrones,
bien sûr. Donc voilà, comme tu l'as dit, qui est un peuple de la série de livres Game of Thrones.
Et, oui.
Et cette langue qui nous semble... Elle nous semble familière parce que lors de sa première rencontre, la syntaxe est très similaire à la nôtre, c'est-à-dire sujet-verbe-complément. Mm-hmm. Et elle est inventée avec beaucoup de préfixes et suffixes,
okay.
Ce qui fait d'elle une langue se rapprochant de la nôtre et qui est très facile à apprendre et à comprendre.
Donc le Dothraki, tu penses que c'est facile à comprendre et à apprendre ?
Alors, c'est peut-être pas la langue la plus simple, mais en tout cas, c'est celle qui se rapproche, peut-être pas la plus, mais il y a certains mots qui sont similaires aux nôtres. C'est une langue avec laquelle on peut mieux appréhender.
Ok, eh ben, écoute Manon, on va juste faire une petite pause musicale.
Ok, pas de soucis.
Nos amis de La Forge sont venus avec quelques sons. Hein, donc là, nous allons écouter un morceau issu de leur dernière compile. C'est parti.
Ça s'appelle Hermet, Devil's Reject.
Merci.
C'est le banger de la compile.
Merci Rémi, effectivement, très gros banger celui d'Hermet. Thank you. Toujours sur Radio Primitive, toujours sur le projet 5151, et toujours avec nos amis de La Forge. Je discutais hors antenne avec Manon, et donc elle me parlait d'un concept, j'aimerais bien qu'elle nous en parle, nous dise un petit peu plus, ça s'appelle le Sense of Wonder. Est-ce que Manon, tu peux nous expliquer ce qu'est le Sense of Wonder et de quelle manière il est rapproché de ta création, du travail
que tu fais pour... Ouais. Oui, donc le Sense of Wonder, c'est en français le sens de l'émerveillement.
Mmh, okay.
Et c'est le fait que l'auteur de l'histoire de la fiction en question crée une nouvelle langue de toutes pièces afin que l'on puisse s'immerger totalement dans son univers, mmh. en adéquation avec le reste de son univers, constitué d'une nouvelle culture, d'une civilisation, de nouveaux rites ou encore de nouveaux habits.
C'est global, en fait, le Sense of Wonder.
Oui. Oui, oui. Et cette création de langues artificielles spécifiques à la science-fiction contribue donc à l'immersion et donc au Sense of Wonder.
Oui, complètement. Ouais. Et du coup, pour faire le lien avec...
Du coup, c'est à partir de tous ces éléments dont j'ai parlé juste avant la petite pause que j'aimerais créer une sorte de scénario fictif, au sens où j'aimerais écrire une fiction à partir d'un fait divers qui a eu lieu dernièrement.
Ok. Tu peux parle-nous du fait divers, justement. C'était quoi ?
Alors, pour le moment, c'est encore assez flou, mais j'ai pensé à deux faits divers mm-hmm. en question. Et j'ai pensé à l'astéroïde Oumuamua.
Ah oui, effectivement.
On a entendu beaucoup parler récemment. Mm-hmm. Et il a été découvert il y a 3 ans. Donc, pour resituer un peu, certains scientifiques émettent l'hypothèse qu'il serait peut-être le signe d'une civilisation extraterrestre.
Moi, je crois un peu à cette théorie aussi. Hein,
Moi aussi.
Ça me plaît de le croire, en tout cas.
C'est ça. Mais il pourrait aussi s'agir d'un débris de vaisseau ou d'une sonde automatique, vestige d'une civilisation disparue, selon les scientifiques. Mmh. Et nous pourrions donc imaginer partir à la rencontre de cette civilisation disparue, par exemple, par l'envoi d'un message sur cet astéroïde en question, et pouvant par exemple décrire et dire ce qui se passe ici sur notre planète.
Ouh là là! Je sais pas si ça leur donnerait envie de rentrer en contact avec nous, hein, si leur décrivait ce qui se passe actuellement sur notre planète. On lui dirait, alors on ne va pas s'arrêter là, on va faire un détour.
Actuellement, c'est vrai, je pense que...
On va errer pendant encore des millions d'années avant de poser les pieds sur cette planète. Pardon.
Et du coup, pour revenir à un deuxième fait divers qui pourrait m'intéresser dans mon travail, je suis aussi tombée sur l'histoire de l'OVNI de Berkshire, c'est une histoire qui est moins récente, certes, mais que je trouve assez intéressante dans son fond. Donc ça s'est passé en 1969 et cette année-là, plusieurs habitants ont aperçu des lumières étranges descendre sur la ville. Mmh. Et beaucoup ont indiqué par la suite qu'elles étaient attachées à un ovni qui avait la forme d'un disque et qui effectuait des acrobaties aériennes. Et on peut compter quand même 40 personnes qui ont rapporté avoir vu cet objet mystérieux. Okay. Et le plus fou, c'est que certaines de ces personnes disent avoir été enlevées par ces extraterrestres. Et leur discours semble plutôt bien tenir la route. Donc c'est assez intriguant. Et je pense que c'est ça qui me rapproche autant de cette histoire. C'est que c'est assez...
C'est dingue, ça. Donc, une quarantaine de personnes ont à peu près racontent la même expérience sur des enlèvements extraterrestres.
Quoi. Au même endroit, oui. Il y a un reportage Netflix sur cette histoire qui est vraiment, je trouve, géniale.
Ah, c'est intéressant. C'est quoi le nom du
alors, reportage je ne me souviens plus exactement, mais tu tapes Berkshire et tu vas tomber sur ce reportage.
Ah, ça peut être intéressant à creuser, là, surtout qu'ils annoncent du mauvais temps la semaine prochaine. Donc, pour chiller devant la télé.
Et du coup, il y a ces personnes qui racontent comment c'est passé. Et c'est assez drôle parce qu'il y a énormément de points communs qui se rassemblent entre ces personnes.
OK.
Et donc, pour revenir à mon travail.
Ah oui, complètement.
À mon travail, oui. Ce serait alors d'imaginer un langage spécifique qui serait adressé à ces extraterrestres si ça venait à recommencer, donc s'ils venaient nous re-enlever, par exemple. Et on pourrait, par exemple, se demander l'origine de leur venue dans la ville de Berkshire et en leur demandant qu'est-ce que vous venez faire ici, qu'est-ce que vous nous voulez.
Ah, c'est vrai que ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui vous intéresse chez nous, sur Terre. Hein.
C'est ça.
Une question.
C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas quoi te répondre actuellement.
Ah, aujourd'hui. Écoute, voilà. Et du coup, donc, ton travail en termes de recherche graphique, tu peux aller un petit peu plus loin sur, sur le sujet.
Ouais, bah, du coup,
là, on est en avril maintenant.
Ouais. Et du coup, pour commencer, il va falloir, parce que oui, en avril et que c'est le bon moment, je me suis donc intéressée aux messages que des scientifiques ont élaborés et qui sont destinés à d'éventuels extraterrestres. Je suis actuellement en train de faire une sorte de répertoire graphique de sous forme de constat dans lequel sont présentés chacun de ces systèmes. Mmh. Et afin de pouvoir moi-même analyser ce que l'homme a pu imaginer ces dernières années en termes de transmission de messages à un potentiel extraterrestre.
Ok, et, est-ce que tu aurais un exemple de ces transmissions de messages?
Oui, bien sûr. Bah, du coup, il y a la plaque Pioneer.
Pioneer, ah oui.
Que je pense que pas mal de nos auditeurs connaissent. C'est une plaque, donc je rappelle un peu ce que c'est, peut-être que ça
s'appelle n'hésite pas à rappeler.
C'est une plaque métallique qui est embarquée à bord des deux sondes spatiales, Pioneer 10 et Pioneer 11. Mm-hmm. Et elles ont été lancées en 1973.
D'accord.
Et sur cette plaque, il y a un message pictural de l'humanité qui est gravé à destination d'éventuels aliens. Un homme, donc il y a un homme, la représentation d'un homme et d'une femme nue,
okay.
Et ainsi que plusieurs symboles fournissant des informations sur l'origine de ces sondes. Mm-hmm. Et comme nous pouvons nous en douter, il s'agit d'une sorte de bouteille à la mer interstellaire, parce que les probabilités qu'elles soient découvertes un jour sont relativement faibles.
C'est génial, enfin vraiment, ouais, ce serait chouette que ce soit retrouvé, puis que ça puisse donner lieu à une communication.
C'est ça.
Wow, c'est chouette. T'as d'autres exemples ?
Je pense aussi à la capsule temporelle Kio, mm-hmm. qui date de 2001. C'est des ingénieurs américains qui ont élaboré un petit satellite, donc nommé Kio, mm-hmm. Contenant des messages de milliers d'internautes. Et la sphère mesure à peu près 80 cm de diamètre et environ 10 mètres avec les ailes déployées.
Ah oui.
Et elle pèse environ 100 kg.
Ah oui, quand même.
Et donc son lancement a été retardé de plusieurs années. Et aux dernières nouvelles, elle devait être lancée en 2015 et reportée fin 2017.
D'accord.
Et aujourd'hui, les responsables ne proposent plus de date et n'informent plus personne. Donc cette histoire reste un peu en suspens. Mm-hmm. Mais je trouve le concept assez génial de réunir des messages des internautes pour que...
Oui, en plus, c'est des messages de personnes qui sont juste intéressées par le projet.
C'est ça. Et il y a de tout. Et je crois qu'on peut les retrouver, ces messages. Sur le net, j'étais tombée dessus.
Et si t'avais un message, toi, à mettre justement sur cette sonde, tu mettrais quoi comme message ?
Bonjour ! J'en sais rien.
Bonjour !
Et du coup, oui, je peux en citer un dernier.
Ah oui, mais vas-y, avec plaisir. Allez. Avec plaisir. C'est tellement bien documenté.
Soyons fous. Donc, il y a aussi le DVD Vision of Mars. Mm-hmm. Ça remonte à 2008.
Mmh,
la sonde Phoenix Lander s'est posée avec succès près du pôle sud de Mars et elle commençait sa mission consistant à rechercher des traces d'eau et des éléments organiques dans le sol.
Ah, donc ça, c'était... Ah oui, ça parle un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement avec Perseverance.
Oui. Et donc, perdu parmi les instruments de bord, se trouve un mini-DVD très particulier,
okay.
Qui attendra sans doute très longtemps avant d'être lu, donc, comme les autres messages que j'ai cités précédemment. Mm-hmm. Et donc, ce mini-DVD est fabriqué en verre et prévu pour survivre des centaines, si ce n'est des milliers d'années dans l'environnement martien.
Génial.
Jusqu'au jour où sa véritable mission commencera, c'est-à-dire transmettre ces informations au visiteur qui le trouvera, donc c'est ce qui m'intéresse.
Eh oui.
Et donc, ce disque contient un message adressé par l'humanité aux générations futures qui viendront fouler le sol martien d'ici un siècle, si ce n'est plus.
Ah, oh, chouette, ça a l'air intéressant, ça aussi, Vision of Mars. C'est vrai que ça peut faire une bonne thématique pour les prochaines journées qui s'annoncent presque enneigées sur, sur Reims, donc entre le documentaire sur Netflix et le DVD Vision of Mars.
Ah bah, il y a de quoi faire.
Ouais. Ouais, ça permettrait aux auditeurs de rentrer un petit peu dans ton concept graphique et ton approche.
Et donc, tous ces messages, enfin, il y en a énormément d'autres.
Hein, oui, j'imagine que là, tu as cité que trois exemples.
Oui,
pardon,
voilà, mais, ça. J'ai essayé de mieux cerner ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Mais il y en a beaucoup
sûr.
Et c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant, en tout cas.
Ça l'est complètement, oui.
Et donc, tous ces messages me posent donc certaines questions dans ma pratique actuelle. Ces messages seront-ils lus un jour ? Quel est le type de message adressé à un extraterrestre ? Sur quel support doit-on écrire ce message afin que celui-ci résiste au temps ?
Ah, effectivement.
Quelle différence y a-t-il entre les langues construites et les langues naturelles de la fiction ? Pourquoi vouloir inventer une langue dans une œuvre de science-fiction ? Et puis, quelles pourraient être les principales caractéristiques d'une langue et les incontournables à respecter afin de se faire comprendre ?
Ah oui, ça te fait quand même vraiment beaucoup d'axes de recherche.
Hein. Yeah, beaucoup,
c'est vrai que tu as un questionnement tellement global et en même temps, c'est un sujet qui est tellement, tellement vaste et passionnant.
Vaste, passionnant, puis c'est assez libre. On peut se penser... Ouais, c'est vraiment...
J'imagine, plus tu en découvres, c'est comme un peu un tiroir rempli de tiroirs.
C'est ça.
Tu découvres quelque chose qui donne envie d'aller encore plus loin sur un tel sujet.
Il y a tellement de documentation sur ce sujet qu'à chaque fois, tu sais pas vers quoi partir. En fait, c'est fou.
Et j'imagine aussi de sources. Je pense qu'il faut faire attention parce que effectivement, il y a des propos assez scientifiques, mais il doit y avoir aussi des choses un peu fantaisistes.
Et du coup, toutes ces questions, ce message qui est mis en quelques minutes, il risque de se propager dans la Voie lactée en quelques milliers d'années, voire même hors de la galaxie, s'ils ne sont pas arrêtés ou absorbés sur leur parcours. Mmh. Et bien que dérisoires, ils sont très importants sur le plan symbolique et philosophique. Mais connaissant le gouffre spatial et temporel qui nous sépare d'éventuelles civilisations, on pourrait se demander s'il faut vraiment tenter de chercher le contact d'une autre civilisation. Mmh. Et il y a 80% des personnes qui estiment qu'il faut rechercher ce contact en question.
Ouais.
Savoir que nous ne sommes pas seuls pourrait être essentiel pour notre survie.
Ah oui, effectivement. L'humain a toujours fait ça depuis la nuit des temps. Toujours chercher plus loin, chercher plus loin.
Parce que ça nous intrigue, donc...
Bah oui, complètement. Et du coup, comment, dans ta démarche de recherche, surtout t'es appuyé sur quoi ? Qu'est-ce qui t'a guidé ? Qu'est-ce qui t'a aidé ?
Alors actuellement, je suis en train... Je m'intéresse au travail de Frédéric Londragin, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est le Centre National de Recherche Scientifique. Mmh. Et il s'intéresse au langage des mots et au langage des images. Et dans son ouvrage « Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction » des éditions Bélial, que j'ai ramené ici.
Celui-ci que tu as... D'accord.
Ouais. Et du coup, je suis en train de le lire en ce moment. Et ça m'aide pas mal dans ma démarche de recherche plastique. Parce que forcément, déjà, le nom...
C'est complètement dans mon
axe de recherche.
Ah oui, oui.
Et aussi, il évoque l'origine et l'évolution des langues naturelles, la création des langues artificielles et comment elles sont utilisées dans la fiction. Et il explique aussi assez bien, je trouve, quels sont les éléments constitutifs d'une langue latine. Et puis, il imagine à quoi pourrait ressembler un premier contact avec les extraterrestres.
Ah, ça a l'air passionnant, ce livre.
C'est vraiment passionnant.
On va juste rappeler le titre, comment parler à un alien, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui. Langage et linguistique dans la science-fiction.
D'accord.
Et il donne énormément d'exemples, donc c'est vraiment... Il y a énormément de sources, donc c'est vraiment intéressant. Mmh. Et il explore les œuvres de science-fiction qui mettent en scène le premier contact donc, avec ces extraterrestres.
Waouh, chouette. On va faire une deuxième pause musicale. Donc on est toujours avec nos amis de La Forge. Donc là, on va passer une autre track de leur dernière compile. Et là, nous allons écouter notre ami Slow Glide. C'est parti. Down, 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 down Slowglide avec Kinetic Violence, extrait d'une des compiles de la dernière compile Christian Polaris de La Forge, dans laquelle on parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Là on va juste reprendre avec Manon qui nous explique depuis tout à l'heure en quoi consiste son travail de diplôme qu'elle fait actuellement. Et on parlait du premier contact avec les extraterrestres.
C'est
et
ça.
Du coup, comment est-ce que toi t'imaginerais ce premier contact avec des extraterrestres ?
Alors, je pense que le cinéma peut biaiser en fait ma vision des choses parce que je vois tellement de choses actuellement, c'est normal. On a tendance à réfléchir, à se référencer en fonction de ce que nous voyons me concernant, j'imaginerais bien tel que ça se passe dans le film Premier Contact, tu vois.
Ah oui, forcément. Mais oui, Premier Contact.
Je dis, tu vois, parce que je sais que tu l'as vu et que c'est toi qui me l'as conseillé.
Oui, effectivement.
Et pour faire court et résumer, pour nos auditeurs, dans le futur, des mystérieux vaisseaux et des êtres surgissent d'un peu partout sur Terre. Mmh. Et le monde entier prend peur. Et justement, il y a une linguiste qui tente de comprendre leurs intentions. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Et c'est à elle de devoir décoder en peu de temps le langage de ces extraterrestres et tenter de transmettre un message à eux. Et par quels moyens ? Et c'est vraiment, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est vraiment intéressant d'un point de vue sociologique et linguistique.
C'est également un très très beau film. Enfin,
oui,
l'image est superbe.
C'est ça.
Le film de Denis Villeneuve qui nous proposera aussi bientôt Dune, sa version de Dune.
Ah ouais, ouais. Au cinéma.
Ah ouais, ça aurait dû sortir, il me semble, cette année, mais ça a été repoussé.
Enfin, chouette. Ouais,
c'est un très bon film à venir. Et effectivement, ouais, Premier Contact, chef-d'œuvre.
Donc il y a pas mal de choses à aller voir.
Oui, là on a quand même pour les journées enneigées de Pâques, vous avez de quoi entre lire, écouter, voir. Vous pouvez rester chez vous sereinement et vous cultiver chez vous, voilà. Et du coup, quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce que tu envisages de faire par la suite ?
Alors du coup, ma prochaine étape serait de m'intéresser à ce qui se fait dans la fiction en termes de linguistique. Comment les auteurs de ces histoires déterminent un langage et de moi-même commencer à définir le type de message que j'aimerais adresser à ces extraterrestres.
Ouais.
Et qu'est-ce que je souhaiterais leur dire, par quels moyens et sur quel type de support, comme on l'a vu précédemment.
Toujours beaucoup de questions. Hein.
Et ouais, c'est vrai que j'en ai mis pas mal.
Il y a tellement de questions en fait.
Et puis à quel type d'extraterrestre ?
Ah bah oui,
parce que
je voulais
aussi en parler parce que le langage utilisé ce serait pas exactement le même en fonction de l'être et à la personne à qui je souhaite l'adresser. Mm-hmm. Parce que pour qu'il puisse me comprendre, cet être en question, il faudrait que qu'il ait un corps qui nous ressemble un minimum sur le plan physique.
Ah oui.
C'est-à-dire des yeux, un nez, une bouche. Et il ne faudrait pas que leur biologie soit équivalente à celle des fourmis, des abeilles ou encore des dauphins, parce que la transmission du message serait plus compliquée.
Oui.
Parce que ce sont des êtres beaucoup trop différents de nous.
Oui.
Ce sont des espèces qui ont tout de même un langage et avec lesquelles nous sommes pourtant incapables d'échanger.
Ah oui, effectivement.
Enfin, on les côtoie et puis c'est tout.
C'est ça.
Et alors qu'au contraire, si le corps des extraterrestres semble neutre, cela pourrait signifier que ce sont des êtres capables de faire des gestes et qui seraient potentiellement capables de comprendre certaines de nos expressions. Et c'est fondamental et essentiel quand on veut apprendre une langue qui nous est inconnue.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, pour le moment, en termes de recherche plastique, j'ai l'intention de proposer une sorte de forme de pierre de Rosette.
Ok.
La pierre de Rosette.
Rappelle où est-ce que la pierre de Rosette.
Ouais, ouais. La pierre de Rosette, c'est une pierre gravée datant de l'Égypte antique, d'environ moins 3150, et proposant trois versions d'un même texte qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes au 19e siècle.
Ah oui, c'est vraiment très ambitieux ton projet, hein.
Ouais, mais en même temps, je trouve ça intéressant de proposer trois formes de langage différents pour que celui-ci, le message, arrive à destination et pour qu'il puisse être compris par le maximum de personnes.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Ce serait envisageable de pouvoir adresser un message sur des supports différents et variés qui permettraient donc de se faire comprendre de plusieurs manières différentes. Et je pense au langage LINCOS, qui est une structure mathématique basique qui permet de transmettre des messages destinés à être compris par n'importe quelle civilisation intelligente.
LINCOS, tu dis, hein ?
C'est ça, LINCOS.
D'accord, le langage LINCOS. J'ai jamais entendu parler de ce langage.
Et on pourrait aussi penser à faire passer un message sous forme de code informatique, pouvant être exécuté sur n'importe quelle machine, ou encore tenter de faire passer un message pictural, ou faire passer ce message par le biais du son. Et c'est pour ça que cette forme de pierre de recette, ça pourrait mélanger toutes ces formes de contacts et de messages.
Mmh, complètement.
Et donc, le fait de proposer un langage qui combinerait plusieurs systèmes de communication maximiserait alors donc les chances de compréhension. Pour le futur.
D'accord. Et pour les gens, pour les curieux, on espère que nous sommes écoutés par des curieux, où est-ce qu'on peut retrouver ton projet où est-ce qu'on peut suivre ton projet ?
Alors du coup, je pense qu'il sera publié à la fin de l'année par l'ESAT de Reims sur leurs multiples réseaux, donc Instagram, Facebook et puis leur site internet. On a une page design graphique qui est dédiée justement à ces projets.
D'accord.
Et puis, je le posterai aussi sur mon site internet. Donc, c'est manonhoudard.fr. Pour les curieux, justement.
D'accord. Eh bien oui, les curieux, hein, vous invite à aller découvrir le travail de Manon. Hein, parce que bon, effectivement, donc, il y a ces recherches qu'elle fait pour l'ESAD. Mais j'imagine qu'elle a un univers un petit peu plus vaste que celui proposé par l'école.
C'est ça.
Donc n'hésitez pas à découvrir Manon dans le travail de l'école, mais également ses travaux perso.
C'est ça, merci.
Apparemment, tu t'es un petit peu investi dans les tapis, j'ai compris ça. Donc bientôt, vous pourrez retrouver les tapis.
J'espère, quand j'aurai le temps et quand ce diplôme sera passé, terminé. De pouvoir me mettre au tapis, oui, c'est vrai.
D'accord.
Donc ça combine quand même une pratique de design graphique, mais quelque chose qui est plus naturel, je pense, c'est ce dont j'ai besoin, en fait, d'arrêter un petit peu d'être sur l'ordinateur et de me proposer des choses qui sont plus manuelles. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin.
Ouais, j'imagine. Bah, en tout cas, nous, c'est tout ce qu'on te souhaite. On va te souhaiter également bon courage, hein, pour la suite et la fin de tes études.
Eh bien, merci beaucoup.
Un grand merci pour cet entretien. Et nous allons enchaîner directement avec nos amis de La Forge.
Hello.
Coucou.
Bonjour. Hello, Michel.
Coucou.
Ça va.
Coucou, ça va, ça va et vous ?
Bah, très bien, très bien.
C'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui.
C'est un plaisir d'être là.
C'est un plaisir de revenir à Quartier Libre.
Ouais.
Oui, effectivement.
Ces journées de...
Alors, faut bien rester devant le micro, Rémi. Hein. Faut bien rester devant le micro.
Pas de souci.
Voilà, merci. Oui, effectivement, oui, parce que là, nous sommes... vous êtes toujours sur la prime, hein, toujours sur le 92.4, projet 51-51. Et donc, on enregistre dans le studio de campagne qu'on a monté au sein de Quartier Libre. Alors, La Forge, bon, moi je vous connais bien, plutôt même très bien, vous êtes des gens que j'apprécie énormément, vous êtes des amis, on est tous entre amis de toute façon, mais pour les gens qui ne nous connaissent pas...
Sauf l'autre, je ne l'aime pas trop, là, le gars. Je ne sais pas qui c'est, mais...
Ah.
Non, je déconne.
Pour les gens qui ne nous connaissent pas, est-ce que vous pourriez déjà chacun vous présenter ? Parce que là, vous êtes quatre autour de la table, mais j'imagine vous êtes plus nombreux au sein de La Forge.
On est 15
au sein du collectif, ouais.
D'accord, et vous là qui... Déclinez vos identités, s'il vous plaît. Oh,
vas-y, alors, président.
Rémi Mathieu, matricule 53 51 51.
Viens devant le micro, Rémi,
par contre. Président de l'association La Forge avec tous mes amis.
Ouais. Ensuite.
Alors moi, c'est Alex Rossignol, le dénommé Le Bird.
Ah oui, Le Bird, ben oui.
Voilà. Donc voilà, producteur. Producteur de La Forge.
Producteur de talent, voilà. Au sein de La Forge.
Merci, c'est gentil.
Bonjour, moi c'est Manu.
Ah Manu, le discret mais néanmoins talentueux.
Comme tu dis, merci pour ces compliments. Louis.
Le couteau suisse.
Et je suis donc Numa dans La Forge, je fais que du DJing, mais je me mets progressivement à la prod parce que ça envoie du lourd.
Ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Très très bonne nouvelle.
Il faut rentrer dans le
game. À un moment.
Ah bah il va falloir de toute façon.
Il faudra me mettre les mains dans le cambouis.
Exactement.
Et bonjour, moi je suis Auguste. On m'appelle Ayuji sur les compilations.
Et oui, voilà, oui, Ayuji, oui, oui.
Le petit dernier, le bleu, le fraîchement arrivé.
Très talentueux.
Un peu plus d'un an au sein du collectif.
Ouais, ouais.
Et puis, les compères sont devenus maintenant, j'espère, des amis aussi.
Et on n'est pas mécontent.
On verra, on verra.
Je sais pas. Hein.
Bof.
Non, c'est ça.
Il devait rester pour un an, il est resté un peu plus longtemps.
Ah bah voilà, c'est comme ça. Hein.
On a renouvelé son contrat.
Vous avez trouvé des atomes crochus. Et donc, du coup, Rémi me disait, ouais, vous êtes donc une quinzaine de personnes au sein de La Forge. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est des producteurs, des DJ, des...
Il y a un peu de tout. Il y a des producteurs, il y a des DJ, il y en a qui font les deux.
D'accord.
Et il y a des gens qui font des visus.
Mmh. Ouais.
Par exemple, Laurent qui est à côté de moi. Mais on...
Tiens, Laurent, viens te présenter.
Oui, Laurent.
Non, il ne va pas parler.
Ah. DJ et
ah, Laurent a une extinction de voix, malheureusement.
Il a fait la teuf hier. Donc,
ouais. Ah, ben, c'est bien le seul alors.
Non, en after.
C'est dommage pour lui.
En after.
Il se réveille.
Voilà, donc une quinzaine. Donc chacun a un rôle un peu déterminé. C'est ça, vous avez des DJ, des producteurs, voilà. Des graphistes.
Exactement.
Donc une quinzaine de personnes, donc 15 personnes qui sont tous sur Reims.
On est un peu dispatché un peu partout dans la France. On a sur Paris, on a sur Lille, il y en a en Espagne maintenant.
Ah oui, oui, en Espagne, c'est vrai.
Ouais, ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué de tous se regrouper en même temps, mais quand on le fait, on est très content.
Tout pour faire des photos, c'est très.
À moi d'être très bon en Photoshop.
C'est compliqué. Ouais.
Ah, mais ça s'est déjà passé une fois. On a fait une photo et Manu n'était pas là. On l'a rajouté en Photoshop dessus.
Ah, c'était bravo. Vraiment pété d'ailleurs.
Voilà. Ouais, c'était pour un visu des noces féines. C'était un peu marrant.
Ni vu ni connu.
Mais du coup, le fait que vous soyez un petit peu pas mal sur Reims, mais aussi un peu dispatché, ça ne vous empêche pas d'avancer sur des projets. Parce que là, dernièrement, vous avez sorti une énorme compile. Christian Pularis, c'était la volume
4.
Volume 4.
Ouais.
Le gros projet. Vraiment, que des balles dessus. Hein,
C'est le plus gros projet, on va dire, au niveau prod qu'on a eu. Parce qu'on était resté sur les éditions précédentes, on était resté sur les producteurs du collectif.
Ouais, et là, vous avez pu avoir des guests.
Ouais, là, on a un peu élargi, on a invité quelques amis.
On a fait croquer.
On a fait croquer, quoi.
C'est très bien, c'est très bien.
On a invité quelques amis qui sont pleins de talent et bon, on est content du résultat.
Ouais, et du coup, j'imagine qu'il y a une bonne réponse de la part du monde de la musique électronique.
Ouais, on a eu pas mal de retours qui sont assez cool.
Ouais.
En Allemagne, en Angleterre, enfin.
Ah oui, oui. Ah oui, à l'international.
Ouais.
C'est hyper encourageant.
À l'européenne.
À l'européenne, ouais.
Ouais.
Bon, c'est... Mais...
D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'écouter de nouveau un extrait.
Ouais.
Rémi, ou lequel?
Ou les autres.
On va vous mettre.
On va mettre le Bird.
Mais le Bird.
Ah, mais oui, mettons le Bird.
Donc, pour la prochaine compile.
On fait une exclue ou pas?
Oh. Ouais, vas-y, hein.
Allez, exclu.
Ah bah si c'est une exclu de la prochaine compil.
Exclusive.
Non, c'est Solar Overload. Désolé, le nom peut-être pas encore définitif. Elle est finie à 98,5%.
Oh là là,
vous n'avez pas le choix, c'est une exclu.
Merci beaucoup.
Mais ça devrait être
c'est
ça.
Bien, tu
merci
sais qu'on ne l'a pas encore écouté. On n'a pas encore fait notre tour, t'en profites.
On ne va peut-être pas le valider.
Elle n'est pas masterisée.
Ça ne sera peut-être pas validé.
Allez, c'est parti pour une exclu de Le Bird à venir sur la prochaine compil de La Forge. We'll be right back.
fuck's sake. Trying to rock this fucking tune, man.
Toujours sur Radio Primitive, toujours sur le projet 51.51 et toujours avec La Forge.
Yes.
Donc là, on vient d'écouter une exclue hein, d'un morceau à venir d'une des futures compiles de La Forge. Donc c'était Le Bird avec une track dont le titre n'a pas été encore vraiment défini.
Et qu'on est ravis d'avoir découvert avec vous.
Ouais, effectivement, c'est plutôt très lourd, comme à peu près tout ce que produit La Forge. Hein. Merci. Attention, nous sommes sur une équipe de qualité. Donc là, on parle du futur, hein, voilà, donc d'une prochaine compile.
Ouais.
Mais est-ce que vous pourriez, l'un de vous peut prendre, enfin, peut nous en dire plus sur les origines de La Forge, de quand ça date? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans la musique électronique? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là maintenant?
En gros, nous, on existe depuis 2016.
D'accord.
Ça fait quoi si
ça, fait
bien,
5 ans.
Ça fait 5 ans.
Eh oui.
Ce qui nous a donné envie, c'était le fait qu'il y ait un peu un manque de cette institution un peu dans notre ville.
Ouais, oui, c'est sûr.
Et
c'est
aussi, on avait envie de perpétuer un truc, tu vois.
D'accord.
Et, Reims, c'est un peu la ville. L'électro et Reims, c'est vachement lié.
Ah oui, c'est
et
sûr.
Enfin, on connaît les époques, Bromance et tout le bordel et tout. Je suis désolé pour le mot bordel, mais.
Pas de soucis, hein, écoute. Hein, et nous sommes sur une radio libre.
Bah ouais, on est une radio libre, effectivement. Mais ouais, on avait envie de perpétuer cette chose et divulguer ce qu'on aime faire, quoi.
Ouais.
Et c'est parti d'une bande de potes.
Oui, voilà, j'allais vous demander justement, vous vous connaissez tous depuis avant 2015, j'imagine.
On se connaît, certains se connaissent depuis pas mal de temps.
Ouais.
Et on a pu se retrouver après sur des choses qu'on aimait ensemble, tu vois, on a pu partager des choses.
Ah ouais.
Et on a créé justement ce collectif à la base pour faire bouger un peu Reims, mais on pensait pas à l'époque que ça allait prendre cette ampleur, quoi.
Et puis diffuser une musique qu'on trouvait pas assez représentée.
Ouais, parce
justement
que,
à Reims, donc
parce en fait,
on
oui,
s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse.
C'est vrai que Rémi, tu parlais de la culture un peu électronique de Reims, de Bromance, par exemple. Hein. Mais c'est vrai que La Forge, vous avez une approche assez particulière de la musique électronique. Et ça s'entend de plus en plus, en fait. Vous êtes vraiment, j'ai pas envie de dire atypique, parce que c'est un mot, je trouve, qui ne veut pas dire grand-chose.
Éclectique,
mais...
peut-être
éclectique, ouais. Mais oui, éclectique. En fait on ressent dans vos sorties, même dans les sets que vous produisez, il y a une approche un petit peu qui va au-delà de la simple musique électronique.
Mm-hmm.
Donc, du coup, je sais pas, est-ce que vous avez des artistes ou des labels ou des références musicales qui font que vous arrivez à donner cette couleur à votre son, en fait.
C'est surtout qu'on est on est une quinzaine au sein du collectif, on a tous des influences hyper variées,
ouais.
Qu'on a vraiment une émulsion musicale assez riche au sein du collectif et vraiment qualitative, et qu'on arrive les uns les autres un peu
à s'inspirer, à
découvrir d'autres. D'autres horizons.
En gardant quelque chose de cohérent, tu vois.
Enfin, ouais, c'est ça. Ouais,
voilà,
bah oui,
cette émulsion nous permet un peu à chacun de sortir de notre zone de confort, de tâter des styles vers lesquels on ne serait pas allé naturellement. Mm-hmm. Et qu'au final, c'est vraiment une grande force d'avoir ce truc-là et de voir maintenant que nos sets sont. Mm-hmm. On a tous
chacun
nos moods.
Chacun ses styles de prédilection.
Ouais,
voilà,
on n'est pas mécontent de sortir de notre zone de confort et puis de.
C'est comme ça qu'on progresse, c'est vraiment tout à votre honneur.
Ouais, exactement.
Et du coup, le process de création, je sais pas, chacun fait quelque chose de son côté, chacun fait une track de son côté. Puis un jour, c'est j'ai ça à présenter sur une prochaine compile, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça colle avec l'image qu'on veut donner du label?
Par exemple, je vais prendre l'exemple là, de la prochaine compile qui sort en mois de juin. Chacun propose sa track un peu dans son coin, comme tu dis. Et puis ensuite, comment dire, les autres vont apporter leur feedback.
Ouais,
bien
sûr.
Vont apporter leur feedback et permettront de corriger, quoi. Vont apporter leur petite pierre à l'édifice, si j'ai envie de dire.
Ouais.
Et du coup, ça va forcément influencer le mood général. Et ce qui est bien, c'est que souvent, on va sortir un peu les trucs de notre côté, mais il va quand même y avoir une cohérence dans une compilation, quoi. Il va y avoir forcément une approche.
Parce que forcément, il y a des retours d'autres gens et
voilà.
C'est cohérent.
Et même pas forcément les producteurs, ça ouais. peut être des profils plus DJ qui vont, mmh. qui vont donner leur avis. En mmh. fait, on est forcément mmh. influencé. On n'est pas tout seul dans notre coin. Quoi.
C'est mmh. ça, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça un peu le but ouais. de ma question.
Voilà, c'est ça,
vous fonctionnez ouais. vraiment comme une espèce de famille musicale.
Voilà, c'est ça. Exactement. Mais ouais. on ne fait pas, par exemple, quand moi je fais du son, je le fais tout seul. Slow mmh. Play, il va faire du son tout seul.
Ouais, alors que sûr, tu vois, moi, par exemple, j'ai mon conseiller personnel qui répond au nom de Manu, là, ici ouais. présent, qui vient régulièrement me donner son avis.
C'est mon ghost producer. Qui n'est pas encore producteur, mais il va donner un avis mais très, de... très intéressant.
Je fais ça bénévolement et il me paye pas pour ça.
Attends, je te fais, voilà. je te fais des petits gueuletons.
Ouais, il me fait à bouffer. Attends,
c'est du bénévole.
T'es mignon.
Voilà.
J'achèterai un bol de riz la prochaine fois. Tu
verras. Toujours le bon conseil, Manu. Il a vraiment une oreille.
On paye en bière.
Oui. J'imagine que Manu est quelqu'un de très, très, très fiable.
Arrêtez.
Donc tout à l'heure, là, on a écouté une exclue d'une prochaine compile à venir. Ouais. Est-ce que vous avez une date de sortie déjà
oui.
une époque oui. de...
C'est le mercredi 16 juin à 16h.
Ah, c'est pas ah le non, projet 16-16
c'est pas l'appel du 18 juin, non.
Ça rentre pour quand les morceaux là?
Très bientôt là. Mais c'est bon, on avance bien.
Non, on va voir ça entre nous.
Ouais, voilà. Oui, j'imagine.
Et c'est le 16 juin, voilà, c'est acté.
Donc c'est vraiment le 16 juin.
Voilà, c'est ouais. le 16 juin. Ouais.
Écoute, il y a une raison particulière à cette date ou c'est juste que.
C'est
juste que le Bird il a des idées et puis voilà.
Ah oui, d'accord.
En fait, il y a Vénus et Saturne qui sont alignés et donc. Et donc voilà, il faut absolument sortir à ce moment-là.
Ah oui, d'accord, je comprends.
On a mis toutes les chances de notre côté, les planètes alignées, les machins.
Il y a une vraie dimension mystique derrière
exactement,
le projet.
Exactement, ouais, c'est très profond.
Derrière le projet de la Forge. D'ailleurs, la Forge, c'est oui. simple, mais pourquoi la Forge? Pourquoi ce nom?
Bon.
Il y a plusieurs histoires.
C'est moi qui. Il y a plusieurs histoires, mais.
La moins improbable.
La plus possible. Non, la plus possible.
Ah, vas-y.
En gros, la Forge, donc, on a un collectif de musique. La musique, ça passe par l'oreille.
Oui.
Évidemment.
Bien sûr.
Et dont l'oreille interne est composée d'une enclume, d'un marteau et d'un étrier. Pour...
Comme dans une forge. Et oui, effectivement.
Aussi simple que ça.
Ah ouais.
Et, voilà. Et c'est aussi et le fait de bah, quand tu forges, tu mélanges des métaux, donc tu mélanges des matériaux. Donc c'est un peu pareil que mixer, en fait. Quoi.
Effectivement, oui, c'est vrai, c'est une belle analogie.
Et il y en a encore 10 000 des histoires, mais on va...
On a vraiment creusé la métaphore, l'image de l'oreille avec le nom des compiles aussi, Christin Ampularis.
Oui, Christin ouais, Ampularis, aussi, c'est aussi un rapport avec le rapport système auditif.
Ouais, exactement.
Christin Ampularis, en gros, c'est un organe interne de l'oreille qui permet de détecter le BPM.
Ah, d'accord.
La diminution du rythme et l'accélération.
Donc ça, c'est géré par le... Christa Ampularis.
Christa Ampularis. Après, on a un peu modifié le nom. Normalement, c'est pas un Y, c'est un I.
Ah, non, voilà, mais vous avez un peu américanisé.
Le Y, il est mieux.
C'est ça, hein, vous voulez jouer à la hollywoodienne.
Pour l'esthétique, la calligraphie.
Bien sûr. D'ailleurs, justement, oui, Auguste, tu parles de l'esthétique. Qui gère l'aspect graphique, les visuels de chez vous?
Bah, c'est principalement monsieur
c'est mon frère.
Voilà.
Laurent d'Enigme. Ouais, qui est producteur, DJ et qui est aussi notre
graphiste,
notre directeur artistique.
Ouais, notre fer de lance au niveau graphisme, c'est lui qui l'a depuis le début.
D'accord.
Voilà. Bah, d'ailleurs, à mon avis, jusqu'à la fin.
D'ailleurs, Enigme là est dans les starting blocks puisque nous allons passer l'après-midi en votre compagnie. Ouais. Là, on a un petit peu parlé de vous, de vos compiles. Donc, c'est bien de parler, mais là, on va surtout écouter des sets. On va être avec vous jusqu'à 18h.
Eh oui.
C'est Enigme qui commence.
Tant pis pour vous.
Ensuite, qui prend le relais?
Ça sera moi.
Ce sera donc Rémière.
Exactement. Ensuite, ça sera Boucheb, qui n'est pas encore là. Il doit être encore mangé.
Shonen Bat.
Shonen Bat.
Il est encore en train de manger sa pierrade avec sa mère.
Il va venir. Fromage, là.
D'accord. Voilà.
Ensuite, ça sera Ayuji et puis Manu qui terminera sur de la grosse drum and bass.
Voilà, ça va être un super après-midi à votre compagnie. En tout cas, les gars, un grand merci d'avoir répondu présent à l'appel.
Ben, merci à toi, Michel.
Un grand merci à Manon également pour nous avoir expliqué
merci
son projet.
Oui. Merci à vous.
On vous quitte avec un dernier extrait d'une compile de La Forge. Lequel, les gars?
Non, on va écouter un...
Ah, on voulait mettre un petit Boucheb.
Ouais, l'album sur le futur album.
Ah oui,
il va y avoir un album.
Exclusivité, il va y avoir un album de Shonen Bat qui sera au mois de septembre. Par contre, j'ai pas l'heure précise.
Mince.
Mais voilà.
On n'a pas regardé le niveau des planètes.
Et donc, ce morceau s'appelle Open Water.
Ah bah Open ouais. Water, oui. Donc exclu voilà. De Shonen Bat à venir sur son album au mois de septembre.
C'est bien d'être à la radio, on peut, et même en tant que membre de la Forge, on peut découvrir ce qui
se passe. C'est génial.
Exactement, moi, je viens juste faire de découvrir des qu'on allait passer ce track.
Les gars, encore un grand merci et bravo pour ce que vous avez produit.
Merci à vous
pour l'orgueil. Merci continuer à produire. Manon, merci et bonne chance.
Parce que votre projet, il est quand même formidable et on est ravis d'être là.
Merci. Donc, merci, c'est un plaisir partagé.
Changez rien.
On est parti avec Shonen Bat. À bientôt, merci bien. We'll be right back.